Les chemins de traverse avec Pascal Laurière, une émission Maurice Clément Fèvre. Bonjour et bienvenue dans ce chemin de traverse, le safran de la safranière à votre assiette. Dans ce chemin de traverse, nous allons continuer à parler commercialisation des produits des safraniers du Quercy et prix, puis nous repartirons à Cagnac-du-Causse à la rencontre d'une autre safranière, Élodie Varin. Mais auparavant, nous retrouvons Christian Agrèche.
L'intervalle entre le safran de basse qualité, il faut dire qu'il est de basse qualité parce que les conditions de séchage et de production ne sont pas les mêmes. Il n'a pas la même qualité que celui qu'on produit ici. Arrive à 10 euros alors que nous, si on l'achète à 1 gramme, on tourne autour de 30 euros pour un safran de grande qualité.
Christian Agrèche.
Alors c'est vrai qu'au niveau du prix, on ne s'étonne pas de voir une bouteille de vin à 1 euro et l'autre à 1 euro la bouteille alors qu'on va voir des bouteilles à 100 euros. Donc la différence, elle n'est pas énorme. Il ne faut pas avoir peur d'acheter un safran de qualité parce que finalement, ramener à l'assiette, ça ne représente pas énorme puisqu'avec 0,3 g, on fait 10 assiettes facilement. 0,3 g, c'est tout ce qu'il faut pour bien parfumer un plat pour 10 personnes. Mm-hmm. Donc ça ne coûte pas très cher. Ça coûte entre 0,5 et 1 euro dans l'assiette. C'est bien moins cher que la truffe ou que d'autres produits de luxe. Parce que c'est vrai qu'avec 1 kg, on fait 30 000 assiettes. Donc avec 1 kg de truffe, on ne fera pas 30 000 assiettes.
Ouais. Oui, ça, c'est cher ramené au kilo, mais vu la concentration, c'est...
Tout à fait.
Mais ça a toujours eu de la valeur, le safran, comme ça ou...
Ah, toujours. Oui. Ça a toujours été coté sur le prix de l'or. Oui, oui.
Odette Angers.
Ma mère avait à Paris, alors où achetait-elle le safran? Elle l'achetait chez une amie qui était herboriste. Et moi, je voulais faire herboriste parce que j'entrais dans cette boutique, toutes ces odeurs, ça m'enivrait. C'était
bon.
Ouais. Et j'ai connu aussi une pharmacienne qui vendait... Alors après, on les vendait chez les pharmaciens, qui m'a dit que c'était coté sur le prix de l'or.
Donc sur le safran, quand on parle du prix, on en parle en grammes, en fin de compte.
Ah oui.
Parce que si on en parle en kilos, c'est...
Ouais, C'est affolant. Ouais.
Nous sommes à la Côte-d'Éval avec Martine Tournebeuf. Vous êtes secrétaire de l'association Les Safraniers du Quercy, productrice.
Voilà.
Et également, vous êtes chargée de la commercialisation du safran.
Déjà avant la commercialisation, j'interviens déjà par rapport à la démarche Label Rouge et IGP. C'est-à-dire que le producteur nous apporte le safran au niveau de l'association pour le passer en commission d'agrément, pour qu'il ait son agrément Safran du Quercy. Donc, il nous apporte le safran suite à la récolte, c'est-à-dire à peu près un mois après la récolte. Chaque producteur fait l'apport de son safran de l'année. Donc, systématiquement, moi, au niveau de la livraison du safran, je regarde le taux d'humidité, un peu la qualité, c'est-à-dire les mondages et différents critères, pour déjà donner un premier aperçu au producteur. Donc, je pèse le poids. Et on fait avec Pascal Réin, conseiller de la Chambre d'agriculture du Lot, on fait un relevé donc du quantitatif livré par rapport donc aux bulbes plantés, par rapport à l'arrachage, s'il y a eu un arrachage de bulbes et une replantation de bulbes cette même année. Donc on fait tous ces relevés par rapport à chaque producteur. Et après, donc, on relève le poids, on relève le taux d'humidité et on demande au producteur comment il veut soit reprendre ce safran conditionné, soit le laisser à la commercialisation, à la coopérative. Voilà. Et après, dans un deuxième temps, tout ce safran passe en commission d'agrément. Passe devant un jury de à peu près une dizaine de personnes. Et il y a 7 critères qui sont à respecter, c'est-à-dire la couleur, les mondages, le séchage, l'odeur, les corps étrangers, le taux d'humidité. Voilà un petit peu les critères. Il y a des notes éliminatoires par rapport à l'odeur et la couleur. Ça, ces critères-là ne peuvent pas être améliorés. Voilà. D'accord. Au niveau commercialisation, on a plusieurs possibilités de commercialiser le safran. C'est-à-dire qu'on le vend déjà au public. Donc, on a 3 conditionnements, 0,1 g, 0,3 g et 0,8 g. Après, nous avons les restaurateurs. Je suis assez fière aujourd'hui quand même d'avoir M. Rollinger de Cancale qui aujourd'hui, c'est la personne qui nous achète le plus de safran, safran du Quercy bien sûr. Après, on a quelques restaurateurs, si on a Michel Saran à Toulouse, qui est la deuxième personne qui nous achète le plus. Et après, on a quelques restaurateurs lotois, voilà. quelques restaurateurs de monotables du Lot. Aujourd'hui, au niveau commercial, par rapport à notre produit, ce qui nous engendre beaucoup de ventes, c'est toute la transformation. Puisqu'aujourd'hui, on a 35 produits dérivés à base de safran. Et je vois que bon, peut-être qu'au fil du temps, on n'arrivera plus à développer une gamme parce que bon, il y a un panel quand même assez important. Mais bon, disons qu'il faut faire aussi des choix judicieux, ne pas vouloir mélanger le safran avec tout et n'importe quoi. Donc de faire quand même des mariages subtils et judicieux. On verra que c'est la partie sucrée qui intéresse beaucoup plus les gens. Donc la partie salée, bon, elle intéresse les gens, mais je pense que par rapport aux épiceries fines, puisque c'est les gens qui nous achètent le plus les produits transformés, les épiceries fines ont déjà, par exemple, sur des produits salés, toute une variété de produits non safranés. Ils ne veulent pas, des fois, réinclure juste un produit salé dans leur gamme. Mmh. Voilà, hein, c'est un petit peu la problématique que l'on a par rapport aux produits salés. Voilà. Alors, on a des produits phares. Donc, il y a les apéritifs, le sirop, le nougat, le confit d'oignon, les bonbons, les lolottes et les trois conditionnements.
Tout cela met l'eau à la bouche. Aussi, trois possibilités pour satisfaire la sensation. Vous rendre à Cajard dans le Lot, à la coopérative La Côte des Vals, ou, plus simple, téléphoner à Martine au 05 65 33 45 58, ou encore, et plus dans l'air du temps, aller sur le site Safran du Quercy. Nouvelle rencontre dans cette série d'émissions consacrées au safran. Nous allons nous rendre à nouveau sur le Cos de Gramma, au hameau de Clavel, à Cagnac-du-Cos. En ce lieu, nous avons déjà partagé la passion des safraniers Pierre et Chantal Lepont. Cette fois, quelques centaines de mètres plus loin, nous allons retrouver Élodie Varin. Nous sommes le 6 novembre 2010 et nous allons cueillir les quelques dernières fleurs de safran restantes en cette fin de saison.
On est situé à Clavel, un hameau qui fait partie de Cagnac-du-Cos. Cagnac est situé entre la Bastide-Murat et Quissac. Donc c'est vraiment le bout du Cos de Gramma, le lieu des lacs de Saint-Nemphèze, d'où l'appellation de mes jardins, les jardins de Saint-Nemphèze. Voilà.
C'est un bel hommage.
Voilà.
Allez, donc voilà, nous descendons à la safranière, Tesla.
Oui. Ah non, mais je croyais que c'était...
Ah non, mais ça tournait.
Non. Bah, ça a démarré plus tôt que l'année dernière, puisque l'année dernière, c'était la première année de plantation et donc de cueillette. Donc il a fallu le temps que les bulbes se mettent en place, qu'ils émettent leurs racines. Donc ça a démarré un petit peu tard. Mais cette année, du coup, c'était plus précoce.
Et au bout d'un mois, il y a encore des fleurs qui sortent ?
Il y en a encore un petit peu. Vraiment, c'est la fin maintenant.
Et la récolte, ça a été bon ?
Oui, je suis assez contente, puisque par rapport à l'année dernière, j'ai doublé le nombre de fleurs cueillies. Donc c'est assez encourageant.
Ouais. C'est-à-dire, vous êtes passé de combien
dernière,
à combien ?
J'en ai cueilli 3300. Et cette année, je suis à plus de 6600, 6700.
Ah oui ?
Oui. Ouais, non, ça fait plaisir.
Alors là, vous ouvrez le grillage, parce qu'il faut dire que la safranière est complètement clôturée.
Voilà, la safranière et le jardin potager, puisque je suis maraîchère en même temps. Et comme c'est une région du Cos qui est envahie par les chevreuils, il a fallu d'abord se protéger avant d'espérer toute récolte. Voilà.
Parce que le chevreuil est...
Le chevreuil et les salades, par exemple, ça fait pas bon ménage.
Et par rapport au safran, sinon, il y a des friands du safran aussi ?
Non,
Ou est-ce qu'il y a d'autres prédateurs ?
Il y a d'autres nuisibles, comme les rats aux pieds. Mais bon, ça reste assez peu fréquent. Non, en général, ça se passe bien.
Elle est complètement perdue, votre safranière, là.
Oui, c'est planté sur un terrain qui devait être bien exposé au niveau du soleil et un terrain drainant aussi. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu sur le coteau pour faciliter l'évacuation de l'eau au niveau du sol. Voilà. Et donc pour l'instant j'ai à peu près 1000 mètres carrés. Mais le but du jeu c'est quand même de doubler la surface au minimum. Voilà. Puisque ma production principale c'est le safran. Avec le maraîchage, en fait, c'est deux productions...
C'est deux en parallèle.
Voilà, c'est ça.
6 novembre 2010, à alors que le temps est couvert et à la pluie, c'est vers 10h du matin que je me suis rendu chez Élodie Varin, au hameau de Clavel, à Cagnac-du-Causse. Elle habite avec son mari et ses deux filles un petit corps de ferme sur le plateau. De l'autre côté de la petite route, dans une combe, le jardin potager. Et sur le versant sud de cette combe, la safranière. Ancienne responsable des espaces verts à Dieppe, elle est venue début 2009 avec toute sa petite famille comme maraîchère et safranière. L'histoire et la passion d'Élodie dans ce chemin de traverse.
Donc là, nous sommes devant la safranière. On voit encore quelques fleurs de ci, de là quand même.
Oui, quelques-unes. Oui, oui. Alors, il faut savoir que les fleurs sortent avant les feuilles, ce qui fait qu'on ne peut jamais savoir d'une journée sur l'autre ce qu'on va cueillir le lendemain. Donc, il faut vraiment y venir tous les jours. Bon, là, en fin de saison, on va dire, c'est tous les deux jours, ça va, quoi. Parce que la fleur ne vit que 48 heures, en fait. Au bout de 48 heures, elle fane et c'est complètement impossible de récolter le pistil.
C'est perdu.
Donc là, on va ramasser les dernières fleurs, si vous voulez, venir avec moi. Et puis, voilà, allons-y. Donc là, elles sont gorgées de pluie et de rosée. Donc les pétales sont complètement collés, le pistil colle tout autant. Donc je vais récolter ça et le faire sécher un petit peu à la maison, attendre que l'eau s'égoutte avant de démonder. Donc l'émondage consiste en fait à enlever le pistil de tout le reste de la fleur.
Voilà. Et le fait que ce soit mouillé comme ça, ça ne nuit pas à la qualité?
Non, mais ça double le temps de travail en fait, hein, parce que ça colle au doigt, c'est pas du tout intéressant à travailler une fois mouillé, quoi. Mm-hmm. Voilà, là on découvre bien le pistil, ouais. Avec les trois stigmates. Je coupe là avec des petits ciseaux à la base.
Conservés. Avec des ciseaux?
Oui, avec des petits ciseaux, ouais. Ouais. Voilà. Il y en a d'autres qui le font à main nue, quoi, au doigt.
Ouais, parce que après, c'est ça, bon. Voilà, ouais. Il y en a qui m'ont dit que vous faisiez ça au doigt.
Ouais, ouais, ouais. Mais moi, avec des ciseaux, j'y arrive bien, ouais. Donc c'est impeccable. Je continue comme ça. Voilà.
Et pour la récolte, vous avez de l'aide ou...
Non, toute seule.
Vous y arrivez toute seule, c'est
oui,
bon.
Oui. Toute seule comme une grande, comme le maraîchage, c'est pareil. Ouais, ouais. Mais bon, pour l'instant, c'est assez accessible. Hein.
Ou ça reste de taille humaine.
Oui, 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 tout à fait. D'autant que c'est pas une récolte d'un seul coup, c'est tous les jours petit à petit. Donc, puis c'est très agréable. Ouais.
Oui, c'est plaisant.
Ah, c'est super agréable. Ça sent bon, c'est beau. Ça a tout pour plaire, cette culture, vraiment. Oui. Les couleurs sont magnifiques.
Il y a de belles couleurs.
Voilà.
Entre ce jaune, ce rouge et le violet.
Oui, toutes les fleurs, voilà. Toutes les fleurs sont différentes. Il y en a des plus foncées, ça va du plus foncé au plus clair. Il y en a qui sont striées de blanc, il y en a qui sont vraiment d'un violet profond. C'est vraiment une belle culture.
C'est votre deuxième année, là?
Oui.
Je suppose que l'an dernier, donc première année en 2009, ça a dû être un peu magique, là, de voir ces fleurs qui sortaient. Vous devez vous demander est-ce que ça va sortir, parce que sans trop savoir.
Oui.
Ça s'est passé comment, ça?
Voilà, alors c'est vrai qu'il faut venir assez tôt au mois de septembre. Puisque la récolte peut se faire selon les saisons, de septembre à fin novembre. Donc en fait, on ne sait jamais quand est-ce que ça va fleurir, puisque les fleurs sortent vraiment tout d'un coup de la terre, sans avoir de signe avant-coureur, je peux dire. Quoi. Donc il faut venir régulièrement et observer patiemment la sortie de la première fleur. Mais c'est magique. Hein. Voilà. C'est magique. Ouais, ouais.
Surtout quand on cueille sa première fleur. Là.
Voilà. Alors après, les grammes s'accumulent.
La fleur de safran ne fait rien comme les autres plantes. À l'automne, quand les jardins sont dépouillés, quand le feuillage des arbres vire au roux, annonçant la proximité de l'hiver, la fleur de Crocus sativus fait insolemment son apparition. La poussée paraît magique, comme celle des champignons.
Vous êtes venu comment au safran?
C'est le safran qui est venu à moi, en fait. Ah. Parce que moi, je viens de Normandie. Et quand on a décidé de s'installer là, donc j'ai une formation de maraîchage, mais je n'avais pas de formation de safranière, en fait, hein, à la base. Et quand je me suis renseignée sur la région, on m'a dit que c'était une zone de production de safran. Donc j'ai décidé de coupler cette production-là à la production maraîchère. Voilà. Et j'en suis très contente.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans la culture du safran?
Ben, ce qui me plaît, c'est le côté vraiment... agréable de la chose, quoi. La cueillette, c'est assez facile physiquement, hein. Il n'y a rien de dur là-dedans. Après, c'est tout un plaisir de manipuler ces fleurs, quoi. On est vraiment en contact de la nature, c'est vraiment très agréable. Après, c'est intéressant au niveau du boulot, puisque ça vient en complément avec le maraîchage et à des périodes vraiment différentes. Voilà, ça permet d'alterner le printemps et l'été au jardin et l'automne à la safranière.
Élodie Varin, nous la retrouverons lors de notre prochain rendez-vous où nous continuerons à ramasser les quelques dernières fleurs de la saison et à parler safran. C'était Les Chemins de Traverse avec Pascal Laurière, une émission Maurice Clément-Fèvre.